Bienvenue, je suis Dave et vous écoutez XCast, le podcast subjectif et subversif, 100% Xbox.
Passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé?
On fait le bilan,
calmement, se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé.
J'ai toujours considéré que la période mai-juin est le moment de l'année où un cycle s'achève et un nouveau commence pour le jeu vidéo. C'est vrai que la grande fiesta internationale qu'est l'E3 est devenue pour de nombreux joueurs, y compris votre serviteur, le moment où les constructeurs se livrent une grande bataille marketing. Le moment où l'on nous annonce de nouveaux jeux ou du contenu additionnel pour nos titres préférés. Le moment où on nous fait rêver sur ce qui arrivera après. Évidemment, ce sera encore le cas en juin 2020, avec un E3 qui risque d'être massif en annonces. Voilà pourquoi si on m'avait demandé il y a une semaine encore de faire un bilan annuel, c'est cette période que j'aurais choisie. D'autant que XCast fêtera à ce moment-là son premier anniversaire. Mais voilà, depuis une semaine, nous avons découvert sidéré que le ciel de décembre pouvait tout à coup ressembler à celui d'un été sur Los Angeles. En annonçant le nom et le look de sa nouvelle Xbox en plein show des Game Awards, Microsoft a pulvérisé les habitudes de communication, ces routines auxquelles je me suis habitué. Alors, pour cette fin d'année 2019, année du lancement de ce podcast, pulvérisons nous aussi nos habitudes. Ainsi, notre trio de rédacteurs de XCast a bien voulu vous faire part de ses réflexions à propos de l'année écoulée. Salut les petits loups.
Hello Dave.
Salut Dave.
Alors Elvis, as-tu été en manque de jeux cette année?
Absolument pas. Absolument ouais. Pas. On a été très gâtés cette année.
Oh, oui aussi, oui, j'ai trouvé ça très fourni, l'offre de cette année. Pas nécessairement extraordinaire, mais en tout cas très fourni et toujours de bonne qualité et de surprenant, mais en bien. J'ai encore Hellblade à faire et oui, le Sinuous Sacrifice et aussi A Plague Tale que je n'ai absolument pas commencé, donc beaucoup de jeux.
Ouais, ça fait beaucoup de jeux qualitatifs cette année, énormément de jeux en triple A, c'était peut-être un peu trop pour moi.
Ouais non, t'es pas le seul, c'était vraiment une débauche de sorties, un peu comme vous, hein. Je les ai pas tous finis, j'en ai beaucoup en attente.
Même dans les jeux indies?
Même dans les jeux indies, si on pouvait faire un petit top 3 là, des jeux indés.
Oh bah vas-y.
Par exemple, pour moi le premier ce serait, je commence par le premier parce que c'est celui qui m'a le plus marqué, Sea of Solitude, qui a été un titre très percutant psychologiquement parlant.
Très beau jeu,
très fourni, très travaillé, pas nécessairement dans le gameplay parce que parfois ça pouvait être assez ennuyeux, moi qui suis quelqu'un qui suis adepte des FPS et des choses assez rapides et dynamiques. Là on était plutôt dans l'histoire, dans la psychologie. C'était très fouillé. Je me suis pris le parcours psychologique d'une personne de toute sa vie en pleine tronche, tout d'un coup. C'est pour ça que c'était vraiment très très fort et très marquant. En deuxième position, je mettrais What Remains of Edith Finch, complètement barré et mais poétique. Limite, on est à la limite du poétoum, je dirais. Un bon poétoum. Et en troisième, Blair Witch. Ouais. J'étais attirée par. Pourtant, ça m'attire pas du tout les jeux qui font peur, les jeux d'horreur. C'est pas mon truc. Mais celui-là, il avait une belle direction artistique. Il me plaisait. Il était très intrigant. Et il m'a intriguée tout du long.
J'étais là pour te constater aussi à quel point tu as réussi à braver.
Une peur.
Ta peur, voilà. des jeux d'horreur et tu étais très courageuse. Moi, j'ai pas eu ce courage. Hein.
Merci. C'est gentil.
Et pour toi, Elvis?
Alors, je vais revenir sur un jeu qui est beaucoup moins profond, mais qui en même temps, est tellement bien ciselé que j'en fais à nouveau la promotion. Je parle bien sûr de Redout, hein, je suis fan absolu des jeux de course futuristes. Voilà, j'ai trouvé exceptionnel. Mais également, comme Vortex, j'avoue que Edith Finch m'a vraiment mis une claque. C'est bien simple, je crois qu'il m'a fallu une journée entière pour m'en remettre. Quand je l'ai terminé, je plaisante pas parce que ça m'a... Je sais pas pourquoi, c'est un jeu qui m'a complètement chamboulé. D'ailleurs, il faut remercier quand même Microsoft de nous avoir offert le Game Pass qui, à titre personnel, m'a permis de découvrir un grand nombre de ces jeux indie gratuitement, enfin évidemment avec le prix d'abonnement, sans lequel je serais complètement passé à côté. Certains jeux qui coûtent 3 francs 6 sous, avec la passion des développeurs derrière, la patte artistique exceptionnelle, bon, font qu'on est marqué, mais au fer rouge, hein, vraiment. Et je pense entre autres à Silence, je pense à tous ces jeux-là.
Ouais. J'imagine que vous êtes tous les deux abonnés au Game Pass Ultimate, ou au moins au Game
évidemment,
Pass.
Évidemment, évidemment.
Subjectivement, est-ce que ça répond à vos attentes ?
Ah oui, cet abonnement mensuel qui permet d'accéder à un catalogue sans cesse renouvelé, pour moi c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Non pas pour les gros jeux que j'achète, quoi qu'il en soit, hein, de toute façon, mais pour, encore une fois, je l'ai dit, pour tous ces jeux auxquels je n'aurais jamais touché. Et c'est vraiment une mine d'or incroyable. Je parle pas des gros titres, hein. Je parle de, encore une fois, des indies, des jeux dont on n'a pas trop fait la promo ou qui sont vite, on est vite passé à autre chose parce qu'il y avait un gros blockbuster qui suivait derrière. Eh bien, je suis tellement heureux de pouvoir jouer à ces jeux-là. C'est vraiment, pour moi, honnêtement, hein, c'est la plus belle chose qu'on ait inventée pour les joueurs. J'y vais carrément, hein. Sur les deux dernières générations. Voilà, je dis franchement.
Ouais.
Plus que tous les aspects techno, hardware, etc. Ce service-là, vraiment, c'est une révolution incroyable dans nos vies de joueurs, quoi. Mais je pense, mais vraiment.
Moi, j'en pense que c'est un service très complet pour un prix raisonnable. Effectivement, c'est... petite révolution pour ceux qui ont l'habitude de jouer, qui ont le jeu pour hobby, en fait. Passion aussi. Et ça permet de découvrir des titres assez surprenants parfois, des petites pépites, notamment les jeux indés. Moi, je pique là-dedans à fond.
C'est certain que le Game Pass ouvre l'esprit sur le jeu vidéo. Je pensais que le Game Pass serait quelque chose de bien. Et ben, en fait, je me rends compte que c'est quelque chose de problématique parce que tous les mois, on a énormément de jeux et il y a vraiment trop peu de déchets. Une qualité des jeux indies qui est toujours en progression. C'est vraiment quelque chose de génial, le fait de pouvoir jouer à tous ces jeux, même parfois en Day One. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, on a quasiment un jeu Day One presque par semaine. Je pense à un petit jeu comme Supermarket Shriek. J'entends encore les développeurs s'étonner en fait que les gens téléchargent leur jeu via le Game Pass parce que, honnêtement, conduire un caddie avec une chèvre et un mec, c'est un peu.
Oui, c'est sûr.
C'était quand même un pari risqué. Et honnêtement, moi, le jeu, je l'ai essayé, j'ai trouvé ça super drôle. Ça me fait penser à un jeu qui s'appelle Manual Samuel, qui n'est plus dans le Game Pass, mais il est passé, il est resté quelques mois. J'ai vraiment trouvé le jeu super intéressant au niveau du gameplay. J'ai trouvé l'histoire vraiment très drôle. Non, mais 240 jeux. Est-ce que tu te rends compte un peu ? Et j'ai regardé, il y a quasiment plus aucun jeu 360. Quand le Game Pass est arrivé, il y avait 100
jeux. Personne ne te force à les faire tous, mon cher
Mais ils sont tous bons. Ils sont tous bons. Il y a toujours quelque chose d'intéressant. Non, mais c'est vrai. Il y a toujours quelque chose de bien.
Ce garçon est un goinfre.
C'est presque mon point négatif de cette année.
Hashtag boostif,
oui. C'est presque mon point négatif de cette année.
Ah, parce
trop...
qu'il faut aussi on fait un point négatif en plus.
Ah bon, on a le droit. C'est presque mon point négatif de cette année. Il y a beaucoup trop de jeux qui sortent.
C'est aussi mon point négatif, très honnêtement.
L'urgence de la sortie, quoi. L'urgence de la sortie, l'urgence de faire, l'urgence de vendre. On est dans l'urgence, quoi.
Je regrette, moi, personnellement, que tout soit centré sur deux périodes, c'est-à-dire février-mars et septembre-octobre. Mmh. Et j'ai l'impression que le reste a été assez creux. On a eu quand même quelques sorties en juillet-août. Je pense à Wolfenstein Youngblood et Control. Alors, je ne sais pas ce que toi, tu en penses, Vortex. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que toi aussi, tu as l'impression qu'il y a eu vraiment trop de sorties pendant ces deux périodes?
Moi, je n'ai pas... Alors, sur l'année, j'ai pas la même impression. L'offre des jeux sur partie parce qu'il n'y avait rien. Et effectivement, pour des raisons de marketing et des raisons de revenus, les personnes sortent leurs jeux absolument effectivement sur les mêmes périodes. Donc, il y a une espèce de grand boom au niveau de ces périodes. Et après, il y a des creux.
Ouais.
Donc on peut le dire comme ça, mais moi c'est pas mon cas. Je trouve que sur l'année ça a été bof parce que lors de ces grands booms, moi il y a qu'un seul jeu qui m'intéresse et c'est tout. Parmi les 4-5 qui vont sortir, il y en a quelqu'un qui va m'attirer et c'est tout. Et du coup il va me faire un mois, deux mois et puis c'est tout.
Je suppose que les annulations de sorties chez Ubisoft sont justement le fruit d'une réflexion sur la quantité invraisemblable de jeux qui sortent en même temps. J'espère vraiment que c'est ça. Et d'autres éditeurs devraient prendre exemple et qu'ils aient le courage de nous les sortir en été. Moi en été je ne fais rien, je m'ennuie, hein, je ne dors pas avant 4-5 heures du matin, voilà. Et j'en ai marre de jouer à Candy Crush.
C'est vrai que moi, sans je plaisante. D'habitude, je l'ai fait cet été, hein, par exemple.
Mais oui, mais oui. Alors, si un jour un décideur écoute ce podcast, qu'il nous sorte des jeux pendant la période estivale, on a le temps. Hein, tout le monde n'est pas en train de bronzer sur une plage,
oui, j'ai
ou
le droit
de se perdre
en
montagne.
C'est mon droit. Oui.
Donc, j'ai pas grand chose à rajouter en ce qui me concerne au niveau de mon top 3 parce que Blair Witch, j'ai adoré, et Edith Finch aussi. Et je pense même qu'on fera peut-être un petit podcast. Je sais pas ce que vous en pensez sur Blair Witch. Je pense qu'il y a moyen de quelque
ah
chose
ouais, pourquoi
assez
pas.
Sympathique.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je le finisse? Est-ce que ça veut... Moi, je veux que tout le monde soit dans le groupe. Très bien.
Et ben, finis-le.
Et je joue de jour.
Finis-le.
Mais dis-moi, Dave, je suis très surpris de découvrir que tu as réussi à sortir des mers de Sea of Thieves pour tenter l'aventure sur d'autres séances parties.
Sea of Thieves a sorti, je rappelle, l'anniversaire update le 30 avril avec la pêche, la cuisine, les telltales, l'harpon, la destruction de bateaux. Et j'ai pas fini. J'en ai pas fini avec Sea of Thieves, ils ont rajouté de nouveaux trucs. Ah ouais, non mais d'accord, j'y retourne. C'est terrible. Honnêtement, je me souviens pas avoir fait vraiment de beaucoup de jeux sur party cette année. Il y a que Metro Exodus, il me semble, que j'ai fait au moment où il est arrivé sur le Game Pass, que j'ai adoré.
Pour ma part, dans les third parties, ce qui m'a vraiment le plus enthousiasmé cette année, c'est l'arrivée sur la Xbox de jeux japonais. Alors, je pense en particulier à Nier Automata, qui m'a vraiment enthousiasmé. Voilà, j'espère que d'autres titres japonais suivront, parce que c'est clairement le type de jeu qui manque sur cette console. Ouais. Alors bon, il y a différentes raisons, on va pas les évoquer, hein, tout le monde le sait plus ou moins si on fréquente les réseaux sociaux, avec différentes théories. Mais moi, ce que j'attends d'une console, c'est que l'offre soit la plus large possible. Et effectivement, la présence de jeux japonais, et en particulier de RPG, hein, puisque c'est quand même une de leurs marques de fabrique, soit bien présent sur la Xbox. Et c'est vrai que cette année, il y a eu un vrai sursaut, et ça, c'était pour mon plus grand bonheur.
C'est pas mon truc.
Et ça, Vortex, t'as joué à quoi cette année? Bah, Destiny, j'ai envie de te dire.
Ah bon?
Ça fait 5 ans que j'y joue, hein, et puis je suis reparti pour 5 ans.
Non. Tu as fait l'effort d'attaquer quelques first parties qui n'étaient pas au début véritablement ta tasse de thé. C'est vrai, tu l'as fait pour être avec nous. Voilà, parce que t'es une vraie bonne copine. Je pense à Gears 5, entre autres. Et même si c'est aussi pas véritablement un type de gameplay, tu as une adoration sans limite.
Non.
tu as quand même fait l'effort de le faire avec nous et vraiment de bons moments. Et je sais même que tu y as pris du plaisir.
Oui, bien sûr. J'ai aimé cette trame, voilà. La trame de l'histoire, la manière dont c'était construit. C'était simple, efficace. On sentait qu'ils voulaient vraiment plein les yeux. Et derrière, ils ont fait court, simple, efficace, beau. Et c'est tout. Ils ne sont pas allés plus loin. Alors, j'ai dû faire l'effort, oui, pour des éléments gameplay et de PVP aussi, puisque je suis une grande fan de PVP, bien ouais. entendu. Sur Gears, j'ai testé la Horde aussi, qui était quelque chose que je ne connaissais pas. Et j'ai aimé la Horde, c'était très sympa. Et le PVP, moins aimé, parce qu'il y a des mécaniques que j'ai pas vraiment. Soit j'ai pas compris. Soit j'ai peut-être passé à côté, mais
non, il y a mais des choses que... On peut pas tout aimer non plus, on peut pas être la fragueuse que tu es hors pair sur Destiny et apprécier ce gameplay particulier
de Gears 5. Moi voilà, je suis Destiny et Halo, c'est un gameplay qui est caché derrière des murs et collé au mur. Alors moi le fait de coller à un mur, j'aime pas ça parce que ça me... Moi, il faut que je me décolle assez rapidement. J'ai une sensation de non-liberté très rapidement et ça m'agace très rapidement en fait. Parce que je colle à un mur et je veux m'en décoller parce que je sais qu'il y a quelque chose qui me tire dessus, soit sur la gauche, mais un angle mort. Et quand mon angle il est mort, je dois tourner la tête. Et quand je ne peux pas tourner la tête parce que je suis collée à un mur, ça me frustre. C'est pour ça que je n'aime pas le gameplay de Gears. C'est tout.
D'accord. Mmh. Et toi, Dave, toi aussi, tu connaissais pas trop Gears, tu t'es lancé et tu appréciais aussi, hein, même si c'est pas évident pour toi par rapport au type de jeu que c'est, hein, voilà. Au niveau des réflexes.
Ça m'a pas empêché effectivement d'apprécier. Voilà.
Et tu peux nous parler vite fait de ton ressenti sur Shadowkeep.
Sur ce qui.
Oui, ouais, tout à fait. Rapidement, très vite.
Je pense que Destiny 2 a une vraie renaissance avec Shadowkeep et en plus, ce qu'ils ont fait, ils ont débloqué tout ce qui était tout ce qu'ils ont fait 5 ans auparavant. Il y a 5 ans de jeux qui ont été mis en free-to-play, ce qui est assez énorme et ce qui est budgétairement parlant pour des gens qui n'ont pas les moyens de payer 70 balles pour avoir le Season Pass toute l'année. Jouer sur Destiny 1 et les versions précédentes de Destiny jusqu'à l'histoire avec Kate 6, Renegade, il me semble. Tout ça, ce qui est auparavant, c'est gratuit. Donc il y a une véritable renaissance. Les joueurs sont revenus sur Destiny. Beaucoup de joueurs sont revenus sur Destiny. Beaucoup de joueurs recommencent à jouer à Destiny et prennent du plaisir. Ce qui est bien. Et moi aussi, j'aime ce jeu encore plus. Je l'aimais déjà auparavant, énormément. J'y jouais. Je l'aime encore plus parce qu'il m'offre vraiment beaucoup trop de choses à faire. Ce qui fait que je n'ai pas le temps de jouer aux autres jeux. Voilà.
D'ailleurs, à propos de Destiny 2, Vortex, est-ce que tu pourrais nous raconter ta petite anecdote, bon, si tu en as envie, hein, bien sûr. Tu sais, cette rencontre vraiment absolument incroyable que tu as faite il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas si tu te souviens.
Très rapidement, j'ai eu la chance de gagner un concours pour une soirée privée, Bungie, Oupsian, et puis on
encore
là,
un
Mergin.
Concours gagné par Vortex.
Bien un peu de chance dans la vie quand même. Et j'ai eu la chance de parler à Jason Sussman, l'art director de Bungie Studio, qui est un papa très très attentionné, très gentil, quelqu'un qui a du temps pour parler aux autres, sous peu qu'on soit bilingue aussi, qui est très investi dans ce qu'il fait, une imagination extraordinaire, partager un très bon moment. J'ai discuter pas mal avec, et c'est lui qui avait participé essentiellement à la conception de la Cité des Rêves, Destiny, qui est l'une de mes destinations préférées à titre personnel. Voilà.
J'ai une petite question. On a joué ensemble à un jeu qui aurait pu, à mon avis, mettre un bon coup de pied à Destiny, c'est Anthem. Et j'aimerais que tu nous donnes, parce que toi, c'est quand même ton truc, c'est quand même ton rayon, ce genre de jeu. Est-ce que toi, t'as kiffé Anthem? Parce qu'honnêtement, moi, on a fait le solo un peu ensemble. On n'a pas tout fait, on a fait une partie. Moi, j'ai vraiment, vraiment adoré le gameplay du jeu, le jeu tout court, quoi. J'aimerais que tu me donnes un petit peu, mais super rapidement, ton point de vue.
Anthem, c'était le remplaçant de Destiny. Aguerri Destiny, en fait, tout le monde l'attendait. Dans les clans que j'ai pu connaître, avec tous les joueurs avec qui j'ai pu jouer, on avait ce discours-là. À Anthem, moi, j'arrête Destiny, je passe à Anthem. Et on l'attendait avec beaucoup de hâte. Et quand il est sorti, tout le monde s'est jeté dessus. Et on appréciait. Mais tout le monde s'est jeté dessus. Ce qui fait qu'il y a eu effectivement des crashs dans les serveurs. Il y a eu des crashs sur certaines consoles. Et moi, à titre personnel, j'ai déjà connu les bugs de serveurs, etc. Les attentes interminables, les files d'attente avec Destiny. Du coup, j'étais pas... Moi, ça m'a pas dérangé puisque je suis déjà une habituée. J'ai déjà l'habitude d'attendre. Voilà, faut attendre. Et j'ai pris mon mal en patience. Et j'y ai joué un petit peu plus après sa sortie, où ça allait mieux. Et ça s'est très bien passé, j'ai aimé l'histoire. Il y a un truc qui m'avait dérangé sur un bug son, du coup j'avais une partie de l'histoire que j'avais pas. Et après je l'ai rattrapé. Et oui. Ça m'a pas du tout empêché d'apprécier le jeu à sa juste valeur. Un super multi, un super co-op, très nerveux. Le côté... vraiment là, on investit tout l'espace 3D parce que là, il y a vraiment un vol. Hein. Autant dans Destiny, on a des jetpacks, on vole pas vraiment, mais là, on survole vraiment la planète. Et on peut faire des vols stationnaires, ce qui nous permet de tirer de très loin sur des ennemis. Et ça, c'était vraiment très, très apprécié. Mmh. Et un décor assez... Les javelins qu'on pouvait customiser assez joliment aussi. C'est un très bon jeu, c'est une très bonne base. Ils font des petits événements, ça arrive, là il y en a eu. Et il y en a un là en ce moment. J'y retournerai avec beaucoup de plaisir, parce que je ne boude jamais mon plaisir. Voilà.
Histoire de terminer ce petit bilan, si vous deviez exprimer cette année 2019 en un mot, ce serait quel mot et pourquoi, Vortex?
Alors. Parce que tu m'as pris sans que j'ai eu le temps de réfléchir moi non plus, hein, Dave.
En termes de jeux vidéo, l'année.
En un mot, un seul mot, ouais.
Un seul mot?
Ouais, un seul mot.
J'en ai aucune idée. Fourni?
Tu dirais fourni.
Comme un catalogue Ikea.
Trois Suisses, la redoute.
Oui, c'est vrai.
Il faut le CSA les... va nous tomber dessus.
Ah, oui. Page 343 pour les connaisseurs.
Je dirais transitoire. On sent que quelque chose. Oui, ouais, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est plus tout à fait comme avant et qui n'est pas tout à fait ce qui sera dans peu de temps. Et j'ai hâte. Pour l'année 2020, de découvrir ce que les constructeurs, que ce soit Nintendo, Sony ou Microsoft, nous réservent. Et je pense qu'on va avoir de très grosses surprises. Et c'est très bien parce que s'il y a une telle vivacité parmi les constructeurs, s'il y a une telle vivacité aussi parmi les développeurs, c'est nous, hein, au final, les joueurs qui seront gagnants, comme d'habitude. Ouais. Et je suis très impatient de découvrir tout ça bientôt, dans quelques mois d'ailleurs, hein, puisque le futur, pour moi, va vraiment commencer durant l'E3 2020, où on verra ce que Microsoft va proposer, ce que Sony va proposer, ce que Nintendo va proposer.
Pour moi, c'était une année difficile pour pouvoir jouer à tout ce que je voulais jouer. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Et tu allais dire quoi, du coup, Vortex?
J'étais très contente que Elvis parle de transit. Important le transit.
Oula.
Oh mon Dieu. Vous savez que le point positif, finalement, le mot commun, quand tu as demandé, toi, Dave, de résumer en un mot notre année passée, vous savez qu'il y a un mot qui est sorti trois fois, c'est le mot Game Pass. Donc moi je dis que le point commun à nous trois étant Game Pass, si on doit résumer l'année 2019 en un mot pour la Xbox, c'est Game Pass. Vous êtes d'accord avec ça ?
Ce serait ouais. Game Pass. Ouais, ce serait Game Pass. Ouais.
Let's have a dream which isn't under control.
Ainsi s'achève une année de transition qui aurait pu s'annoncer vide et monotone en attendant les annonces officielles des consoles de 9e génération. Il est vrai cette fois. Mais qui finalement marque d'une part la concrétisation d'un service gaming puissant et le démarrage de la communication autour de la Xbox avec des annonces fortes en nouvelles IP et avec la présentation de la nouvelle machine. Avec des annonces aussi fracassantes, nous nous demandons ce que nous réserve l'avenir. Que va-t-il se passer à l'E3 ? Les Xbox Game Studios vont-ils nous livrer tous leurs secrets ? Nous avons hâte de voir ce que Phil Spencer, Matt Booty et Aaron Greenberg nous réservent. Mais pour cela, il faudra être patient et encore attendre 6 petits mois. Mais je suis sûr que vous n'aurez aucun mal à vous occuper d'ici là. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année 2019. Toute l'équipe d'Xcast vous remercie et vous dit à bientôt. Ciao.